Vous écoutez, on lit pour vous.
Embrasser ma nordicité, oui. Les trottoirs, non merci. Un texte de Nathalie Collard, paru le 19 janvier 2024 dans la presse. Il est temps qu'on s'intéresse aux trottoirs montréalais. Pas à leur état d'âme, mais à leur état tout court. Parce qu'on va se le dire, marcher à Montréal l'hiver, c'est souvent un exercice d'équilibre, pour ne pas dire un sport dangereux. Les chevilles qui se tordent dans la neige, les talons qui glissent sur les plaques de glace et bang, nous voilà étendus de tout notre long. La semaine dernière, plus de 1400 appels ont été faits au 911. 1400. Dans une province où les urgences sont engorgées à un point tel que le ministre de la Santé nous supplie presque de ne pas nous y présenter, il me semble qu'on devrait faire tout ce qui est possible pour éviter les accidents. Or, voilà, chaque année, l'administration municipale montréalaise semble découvrir l'hiver. J'écoutais la mairesse Valérie Plante à la radio mercredi expliquer avoir donné un coup de fil aux arrondissements pour réitérer l'importance de dégager les trottoirs. Ont-ils vraiment besoin qu'on le leur rappelle? Ça ne devrait pas être un réflexe comme respirer? À quand des trottoirs intelligents? En octobre dernier, une étude de la Direction régionale de la santé publique de Montréal, des RSP, estimait à près de 14 000 le nombre de chutes après lesquelles les ambulanciers ont dû intervenir entre 2016 et 2021. C'est sans compter toutes celles où la personne qui est tombée s'est relevée sans assistance. L'étude soulignait que c'était dans l'arrondissement de Ville-Marie, un secteur névralgique, que se produisait le plus de chutes à l'extérieur. La DRSP était claire. Montréal doit déneiger et déglacer davantage ses trottoirs. On allait même plus loin en suggérant que le risque de chute soit intégré à la politique Vision Zéro adoptée par la ville pour tout ce qui touche les déplacements sur son territoire. Or, jusqu'à maintenant, c'est plutôt zéro vision à Montréal, tellement on échoue à améliorer l'état des trottoirs. Un sondage réalisé par l'application mobile de déplacement Transit a révélé que les villes ou arrondissements qui déneigeaient le mieux leurs arrêts d'autobus étaient les villes liées de Mont-Royal et de Hampstead, ainsi que l'arrondissement d'Annecy-Cartierville. L'arrondissement de Ville-Marie se retrouvait en fin de liste. Ça va mal quand on dit vouloir attirer plus de gens au centre-ville. On envoie des robots explorer la planète Mars. On jase avec son assistant virtuel, mais personne ne semble souhaiter perfectionner l'art de déneiger ou de déglacer les trottoirs. Pourquoi? On justifie leur état lamentable en nous expliquant que l'abrasif reste parfois pris entre deux couches de glace, que le béton absorbe peu la chaleur, etc. Mais trouvons une solution. Offrons une généreuse bourse à celui ou celle qui développera l'idée de génie. Cela devrait être une priorité. On en a parlé à maintes reprises dans le passé, mais pourquoi des villes comme Oslo, Helsinki ou Reykjavik sont-elles capables d'avoir des trottoirs chauffants et pas nous? Trop cher? Je ne pense pas, si on compare la facture à ce que coûtent les blessures, les fractures et leurs conséquences. Cela dit, merci de ne pas m'écrire que les pistes cyclables sont déneigées avant les trottoirs. Les explications à ce sujet me semblent logiques. Il y en a moins, et leur déneigement, plus facile que celui d'un trottoir, ne nécessite pas le même équipement. Des trottoirs pur ragoûtants. Ce qui m'amène à parler de la propreté des trottoirs. Les Montréalais ont un effort à faire. Beaucoup de nos comportements nuisent au déneigement. Une petite marche dans le quartier chinois ces jours-ci vous exposera à des trottoirs qui ressemblent à des buffets « all you can eat » pour les rats. Et dans certains quartiers, Villeray par exemple, les jours avant et après la collecte des ordures, les trottoirs sont des poubelles à ciel ouvert. Citoyens, citoyennes, gérons nos sacs et nos bacs. Et quand nous voyons des ordures devant notre porte, pourquoi ne pas les ramasser plutôt que de faire semblant de ne pas les voir? La propreté, c'est l'affaire de tous, pas seulement des cols bleus. Mais revenons à la neige et à la glace. Avec le gel des gels de plus en plus fréquent, la faute au bouleversement climatique, les villes doivent être plus que jamais prêtes à intervenir. Est-ce que je m'attends à ce qu'un cul-de-sac reculé et jamais fréquenté soit super bien déneigé 30 minutes après une chute de 40 cm de neige? Bien sûr que non. Par contre, je m'attends à ce que les artères principales soient praticables et sécuritaires le plus vite possible et en tout temps. Faut-il le répéter? Le quart de la population du Québec aura 65 ans ou plus en 2030. À cet âge, une chute a des conséquences pas mal plus sérieuses qu'à 20 ans, sans oublier les personnes à mobilité réduite. Est-ce qu'on veut condamner toute une partie de la population à hiberner de décembre à avril de crainte que les gens se blessent? Ou est-ce qu'on veut des gens de tout âge autonomes et capables de vaquer à leurs occupations, beau temps, mauvais temps? Il ressort de toutes ces études et observations la désagréable impression que les piétons sont des citoyens de seconde zone, que leur mobilité n'est pas vraiment une priorité. Or, nous sommes tous des piétons à un moment ou un autre de la journée. Manifestons-nous. C'était « Embrasser la nordicité, oui, les trottoirs, non merci », un texte de Nathalie Collard paru le 19 janvier 2024 dans La Presse.
On apprend mieux avec le nez, une entrevue de Roland Salès par Guillaume Jacquemont, paru dans le magazine Cerveau et Psycho, février 2023. À partir de quand les odeurs commencent-elles à nous influencer? Elles le font avant notre naissance. Dès le 6e mois de grossesse, le système olfactif du fœtus perçoit des odeurs et en gardera le souvenir ultérieurement. Cela s'observe très concrètement. Ainsi, à l'Université de Bourgogne, le biologiste Benoît Chahal et ses collègues ont donné de l'anis à des femmes enceintes et se sont aperçus que, quelques heures après la naissance, les nourrissons avaient une préférence pour l'odeur d'anis. Bien évidemment, les fœtus perçoivent certains composants chimiques caractéristiques de l'odeur maternelle qui passent dans le liquide amniotique. Ils sont alors sensibles à cette odeur très tôt après la naissance et le resteront toute leur vie. On entend d'ailleurs souvent que l'odeur maternelle est apaisante pour le bébé, au point que les crèches conseillent parfois de laisser un vêtement porté par la mère. Cet effet apaisant est-il bien démontré? Quelques études ont montré que l'odeur du lait maternel est apaisant pour les bébés allaités. On le voit, quand un bébé doit subir une intervention désagréable, comme une prise de sang, si on lui fait respirer en même temps l'odeur du lait de sa maman, il s'agite moins pendant l'intervention et pleure moins ensuite. D'autres observations révèlent par ailleurs que lorsqu'il tète, son cerveau libère de l'ocytocine, un neurotransmetteur qui favorise le lien, l'apaisement et l'apprentissage. L'odorat contribue probablement à cette libération. La tétée est un moment de grande intimité olfactive, même si tous les sens sont bien sûr mobilisés. Mais l'effet de l'odeur maternelle sur le bébé va bien plus loin qu'un simple apaisement, comme l'illustre une expérience menée par Arnaud Leleu, également à l'Université de Bourgogne. Ses collègues et lui ont donné des t-shirts portés par des mères à leur bébé de 4 mois. Les petits sont alors devenus plus attentifs au visage humain et ils les ont mieux reconnus. Cela se comprend si l'on sait que le système olfactif est directement relié aux centres cérébraux de la mémoire et des émotions, émotions qui n'ont pas leur pareil pour éveiller l'attention, et que cette fragrance crée un environnement motivant, stable et sécurisé pour l'enfant. Par l'intermédiaire de son odeur, la mère fait donc du bien à son bébé, stimulant aussi bien les émotions positives que la curiosité et les apprentissages. Les odeurs pourraient-elles être utilisées pour favoriser l'apprentissage chez les jeunes enfants? C'est un début de notre association Née en herbe. Pour cela, nous nous rendons dans des crèches pour présenter des odeurs aux tout-petits, parfois âgés de seulement 3 ou 4 mois, en même temps que des images ou des objets. Nous travaillons main dans la main avec des parfumeurs qui recréent toutes sortes de senteurs, celles d'un lion, d'un kangourou, de la tour Eiffel, de certaines fleurs, du métro. On présente aux enfants ces odeurs au moins une fois par semaine pendant 1 mois. Et cela marche. Les parents sont souvent frappés par les performances de leur enfant, tant du point de vue de l'attention que de la mémorisation. Les enfants se rappellent mieux les objets présentés avec des scènes assez craquantes. J'ai notamment vu des petits de 2 ans qui se mettaient à imiter un lion et à le montrer sur les photos simplement quand ils en sentaient l'odeur. L'intérêt est aussi de favoriser l'éveil olfactif des tout-petits. Il s'agit d'enrichir leur monde sensoriel en leur apprenant à être attentifs aux odeurs, trop souvent négligées dans nos sociétés occidentales où les informations visuelles prédominent. Une expérience restée célèbre montre à quel point nous nous fions surtout à nos yeux en servant à des apprentis œnologues du vin blanc coloré en rouge, Gilles Moreau, de l'INRA, et ses collègues les ont complètement dupés et leur ont fait croire qu'ils buvaient du vin rouge. Comme quoi, ils avaient encore des progrès à faire pour se fier à leur nez. Autre avantage de l'éveil olfactif, favoriser les échanges et les découvertes entre enfants. Dans les crèches d'entreprise où nous intervenons, les petits viennent des 4 coins du monde. Nous essayons de recréer l'environnement olfactif du lieu de naissance de leurs parents, ce qui met les bébés en contact avec les senteurs de leur culture d'origine, tout en offrant la chance aux autres de découvrir cette richesse et cette variété. Comment explique-t-on que les odeurs favorisent les apprentissages? Les odeurs ont des liens très forts avec la mémoire. D'une part, du fait de leur capacité à évoquer toutes sortes d'émotions, qui renforcent la mémorisation. On constate d'ailleurs des échanges particulièrement intenses entre les centres cérébraux de la mémoire, l'hippocampe, et des émotions, l'amygdale, lors de l'enregistrement de souvenirs comportant une part olfactive. D'autre part, parce qu'un centre nerveux appelé tubercule olfactif relie les zones cérébrales de l'olfaction à ce qu'on appelle le système de la récompense, qui est fondamentalement un système de conditionnement et de motivation, il nous procure du plaisir quand nous adoptons certains comportements, comme manger un gâteau, ce qui nous pousse à les mémoriser et à les reproduire. Les odeurs activent donc très facilement le système de la récompense, ce qui stimule l'apprentissage. Certains chercheurs ont en outre imaginé des astuces expérimentales pour exploiter les odeurs à des fins éducatives. Dans une étude menée en 2007 par l'équipe de Jan Born à l'université de Lübeck en Allemagne, les participants devaient observer un jeu de cartes disposé sur un écran selon une configuration particulière, tandis qu'une odeur de rose était présentée en parallèle. Cette odeur a ensuite été rediffusée pendant la nuit lorsque les sujets étaient dans une phase qualifiée de sommeil lent profond. Résultat, le jour suivant, ces participants ont mieux retrouvé la disposition des cartes que les membres du groupe témoin. L'hypothèse explicative est que l'odeur a évoqué la scène dans leur cerveau pendant le sommeil lent, moment où se consolident les apprentissages. En somme, on apprend mieux avec le nez. Ne serait-il alors pas possible d'utiliser les odeurs pour stimuler l'apprentissage à l'école? Il faudrait pour ce faire diffuser des odeurs dans les salles de classe, puis une nouvelle fois pendant la nuit. On peut l'imaginer, mais ça ne me semble pas l'application la plus probable à court terme. Je pense que nous allons plutôt utiliser ce pouvoir mémoriel chez les personnes âgées, notamment celles qui sont atteintes de pathologies neurodégénératives, comme la maladie d'Alzheimer. Les odeurs sont en effet susceptibles de leur rappeler d'anciens souvenirs. C'est pour l'instant encore expérimental, mais des aromatologues testent déjà le procédé dans les EHPAD. Ils disposent d'une mallette de 200 produits odorants de la vie de tous les jours, petits lus, eau de javel, plats cuisinés, dont ils imbibent des sortes de papiers buvards pour les présenter aux pensionnaires. J'ai recueilli des témoignages édifiants concernant des patients mutiques atteints de la maladie d'Alzheimer qui fondent en larmes, probablement parce qu'a fait surface une réminiscence particulièrement forte. D'autres résultats, obtenus par Franck Rexente-Gallet de l'Université d'Angers et sa collègue, suggèrent que les odeurs sont aussi intéressantes pour ramener des souvenirs récents. Vous écoutez « On apprend mieux avec le nez », une entrevue de Roland Salès par Guillaume Jacquemont, parue dans le magazine « Cerveau et psycho », février 2023. Existe-t-il d'autres applications thérapeutiques? Oui, et elles existent à la fois dans le soin et dans le diagnostic. Par exemple, en 2016, une équipe israélo-américaine menée par Ossam Haïk a réussi à identifier 17 maladies en scannant l'haleine de patients avec un nez électronique. Des cancers, des maladies neurologiques ou infectieuses, des pathologies inflammatoires. Le principe étant que toute maladie modifie le métabolisme et donc les composés chimiques rejetés dans le souffle. Grâce à une intelligence artificielle qui avait appris à reconnaître les haleines typiques de chaque maladie à partir d'un panel de plus de 1000 prélèvements, les chercheurs ont alors obtenu 86 % de diagnostics exacts, ce qui surpasse la précision d'un médecin. Avant qu'il n'effectue des examens complémentaires, bien sûr, de tels dispositifs seraient en tout cas très utiles dans une optique de dépistage et de suivi des guérisons. Quand pensez-vous que ces dispositifs seront déployés à grande échelle? Les sociétés qui en font la promotion parlent d'une dizaine d'années, mais c'est difficile à anticiper. La technologie sera bientôt mature, mais des questions culturelles et industrielles risquent d'en freiner le déploiement. Médecins et patients feront-ils confiance à un simple nez électronique pour des diagnostics aussi lourds? Les industriels les appuieront-ils? Sachant que leur emploi est peu coûteux, et diminuera les besoins en scanners, IRM et autres machines à plusieurs millions d'euros. Le chef de l'équipe, qui a publié l'article de 2017 sur le diagnostic olfactif, a en tout cas montré 3 start-up et ses élèves ont essaimé dans des entreprises du monde entier. Les nez électroniques ont par ailleurs commencé à se répandre dans l'industrie agroalimentaire, par exemple pour détecter très rapidement la contamination d'un lot de céréales par des champignons toxiques ou de préparations culinaires par des souches de bactéries dangereuses. Outre le diagnostic, vous évoquiez l'intérêt des odeurs pour soigner. En 2013, le chercheur japonais Masahiro Matsunaga et ses collègues ont par exemple montré que respirer une odeur qui évoque des souvenirs agréables, le principe de la Madeleine de Proust, atténue le stress. Un effet mesurable, tant au niveau psychologique que physiologique, avec notamment un ralentissement du rythme cardiaque. La quantité de molécules inflammatoires liées au stress, appelées interleukines, diminue en outre dans le cerveau, ce qui est très intéressant, car une inflammation chronique trop intense est nocive à long terme. On la soupçonne notamment de favoriser la dépression. Quelques études réalisées dans des milieux potentiellement anxiogènes, comme l'hôpital, suggèrent en outre que des odeurs de lavande, de citron ou d'orange réduisent aussi le stress. Les mécanismes à l'œuvre sont probablement variés, l'un d'entre eux étant l'évocation d'éléments naturels profondément relaxants en eux-mêmes. On sait ainsi que la simple vision de plantes fait baisser la concentration de cortisol, une hormone du stress. Enfin, les odeurs pourraient aider à moduler des comportements alimentaires problématiques. C'est-à-dire, comment les odeurs modulent-elles les comportements alimentaires? Les recherches ont montré que si vous mangez du chocolat, le fait de diffuser en même temps une odeur de chocolat va diminuer la quantité que vous allez consommer, comme si l'odeur donnait en soi l'impression de manger. Les personnes en surpoids ou obèses pourraient donc tenter de manger moins en diffusant des arômes alimentaires qui sont disponibles en spray dans le commerce pendant leur repas. Mais attention aux effets pervers. Quand on émet l'odeur d'un plat que l'on n'a pas consommé, cela ravive au contraire la faim et pousse à manger plus. Les odeurs, c'est aussi du plaisir. Oui, parce que les odeurs sont une composante essentielle du goût. Les composés odorants libérés en bouche par la mastication remontent par l'arrière-gorge, on parle de voie rétro-nasale, et viennent imprégner la muqueuse olfactive située au fond des cavités nasales. Pour vous en convaincre, bouchez-vous le nez en mangeant. Vous constaterez que les aliments n'ont presque plus de goût. En effet, comme l'affirmait déjà l'avocat et auteur culinaire français Jean-Anthelme Brillat-Savarin, 1755-1826, le nez est comme la cheminée de la bouche. Quand on l'obstrue, il ne tire plus et la fumée des composés odorants ne remonte plus jusqu'à la muqueuse. Notez que ce renforcement olfactif du goût ne se produit pas chez des animaux comme les chiens, car le trajet entre leur bouche et leur nez est trop long pour que les odeurs parviennent jusqu'à ce dernier quand ils mâchent. En conséquence, ils reniflent leur nourriture avant de la manger, alors que nous le faisons en même temps. La maîtrise du feu a en outre probablement décuplé notre intérêt pour la nourriture, car la cuisson renforce les odeurs à travers divers types de réactions chimiques. L'intérêt d'un bon petit plat est bien connu, mais on sait moins qu'il existe de véritables séances de dégustation olfactive. C'est le principe du kodo, une pratique millénaire japonaise très codifiée. Ce nom signifie « la voix de l'encens », mais on décrit aussi parfois cette pratique comme l'art d'écouter les odeurs. On utilise des essences de bois sud-asiatiques colonisées par des champignons qui leur confèrent des arômes particuliers et dont on chauffe de petits bouts. On les renifle alors trois fois avant de les passer à son voisin. En testant cette pratique, j'ai carrément fondu en larmes tant elle m'a inspiré des émotions puissantes. L'odeur n'était pas très forte, mais chaude et équilibrée. Un peu abstraite, elle m'évoquait l'enfance sans que je parvienne à y associer un souvenir précis. Étant donné tout ce que nous apportent les odeurs, quelles sont les conséquences d'une perte de l'olfaction? La perte de l'odorat a généralement un impact très négatif sur le psychisme, entraînant notamment un fort risque de dépression. Cette anosmie, comme on l'appelle, a diverses causes, que ce soit une infection virale, par exemple par le COVID-19, ou un traumatisme crânien lié à un choc brutal qui a endommagé les zones cérébrales de l'olfaction. Les anosmiques perdent alors le goût de la nourriture et tout le pouvoir d'évocation des odeurs. Quelques témoignages me font aussi penser qu'ils sont déstabilisés par le fait de ne plus sentir leur propre odeur en permanence. En temps normal, en effet, nous percevons inconsciemment les senteurs qui émanent de nous, même quand nous ne nous en rendons pas compte et nous sommes capables de les reconnaître. Quand on propose à des volontaires de retrouver leur propre T-shirt à l'odeur, parmi une douzaine de vêtements, ils y parviennent quasiment à tous les coups. Perdre cette présence olfactive, rassurante, serait alors source d'anxiété. Tous les anosmiques ne sont pourtant pas déprimés. J'ai connu une patiente, touchée par cette pathologie depuis la naissance, qui allait très bien, même si elle avait des inquiétudes bien spécifiques. Elle craignait ainsi sans arrêt de sentir mauvais. Existe-t-il des moyens de retrouver son odorat? Certaines méthodes de rééducation ont fait leurs preuves lors de la pandémie de COVID-19. Le principe est de sentir une palette d'odeurs au moins deux fois par jour pendant une période assez longue, typiquement 6 mois. Dans la méthode développée par le chercheur allemand Thomas Hummel, il s'agit de 6 produits chimiques bruts qui évoquent par exemple la rose ou le citron. Dans la méthode OSTMR, Olfactory Stimulation Therapy and Memory Reconstruction, on utilise plutôt des parfums de tous les jours. Muguet, jardin au soleil. Une majorité de patients retrouvent alors une certaine sensibilité aux odeurs. L'association anosmie.org propose de tels exercices de rééducation sur son site Internet. Au-delà du cas de l'anosmie, ces exercices sont aussi intéressants pour exercer son odorat, un peu comme un musicien répète ses gammes tous les jours. Ils ne sont d'ailleurs pas très différents de l'entraînement des parfumeurs ou des œnologues. À force de travail, ces professionnels mémorisent de véritables bibliothèques d'odeurs et ont souvent des centaines, voire des milliers de références en tête. Sans aller jusque-là, développer sa finesse olfactive est intéressant à tout âge. Songez au plaisir que vous offrira un simple verre de vin une fois que vous aurez décuplé votre capacité à en percevoir les arômes. C'était « On apprend mieux avec le nez », une entrevue de Roland Salès par Guillaume Jacquemont, parue dans le magazine Cerveau et Psycho, février 2023.